au-delà de ce qui a été dit en grande ligne, je le partage. Enfin, il me semble qu'on est arrivé à un point historique de bascule.
Tout à fait.
Soit on accepte l'idée que l'on va sur une politique européenne fédérale, c'est-à-dire avec des règles partout appliquées et contrôlées de manière pleine et entière et égale sur tous les territoires des 26 membres de l'Union européenne. Soit on accepte le délitement profond et le retour vers le repli sur soi et le nationalisme. Quelle est la meilleure solution pour la France ? Vous sentez bien dans la question, c'est évidemment pas le repli sur soi. Parce que la France reste une grande puissance agricole, même si elle a perdu quelques parts de marché. On a perdu 4 milliards à l'export sur l'Union européenne, ça reste peu par rapport au volume global d'excédents que l'on conserve en capacité de production européenne vis-à-vis des marchés extérieurs, et qu'il y a donc une question de la relation avec le reste du monde, et puis une question de la relation entre les États membres. Donc le vrai sujet là, est-ce que l'on accepte encore, pour trouver la difficulté, c'est qu'aujourd'hui les accords agricoles doivent se faire à l'unanimité, et donc souvent il y a une négociation du plus, je ne sais pas comment le caractériser, du plus nationaliste, du plus défenseur de tel ou tel droit catégoriel, ou de celui qui veut montrer que c'est lui qui domine l'Europe, ça peut valoir pour la France d'ailleurs, de dire je mobilise la clause opt-out, comme ils disent. C'est-à-dire grosso modo, je suis d'accord pour l'accord à condition que j'en sois exclu. Mais vous souriez, sauf que sur un certain nombre de politiques européennes, et pas que dans l'agricole, moi je suis co-rapporteur d'un rapport pour avis en cours d'achèvement sur les nouvelles techniques génomiques. C'est il y a deux catégories, des techniques génomiques qui font que par une accélération de certains génomes de la plante, on accélère ce qui dans la nature prendrait plus de temps, ce qui permet d'avoir plus de résilience sur les questions de changement climatique, sur les questions de phyto, sur l'adaptation à tel ou tel type de terroir, et puis il y a l'NTG2 où on est quasiment sur de l'OGM. Donc le sujet c'est de savoir est-ce qu'on y va ou on n'y va pas. Et certains pays, pour accepter l'accord d'y aller, au moins sur la première catégorie que je viens d'aborder, disent nous on veut être en dehors de l'accord. On ne peut pas continuer comme ça.
Sur les néonicotinoïdes,
c'est ça ? J'ai pesé aussi de bon poids en disant nous dans notre avis sénatorial, si on défend les territoires, même si ça peut être sur certaines politiques aux dépens de la politique française, pour un grand nombre, c'est une façon de défendre la politique française, de ne pas accepter, dès lors qu'on considère que c'est une politique européenne, des exceptions à la règle. Ça passe ou ça casse. Tu ne peux pas être dans l'Europe quand elle t'apporte des choses et être contre l'Europe quand elle perturbe un certain nombre de filières, tout en faisant en sorte que dans ton même pays, d'autres filières en bénéficient. C'est tout la question des accords internationaux. Donc on est dans ce point de bascule. Et ce point de bascule, permettez-moi d'élargir encore un peu, c'est aussi un point de bascule géostratégique, parce que monte une petite musique, notamment chez les populistes. Chacun saura à qui je fais allusion quand je parle de populiste, qui est d'utiliser la crise ukrainienne pour dire, voyez bien, si jamais l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, le chemin est encore long, franchement. Il y aura encore une ou deux générations de paysans français qui travailleront sans l'Ukraine dans l'Union européenne si un jour elle rentre dans l'Union européenne. Mais ça aura des impacts importants, évidemment. C'est une des principales puissances agricoles européennes. C'est un pays de 40 millions d'habitants. Ils n'ont pas les mêmes normes que nous. Ils n'ont pas les mêmes productions.
Ils ont un potentiel de culture énorme.
Ils sont issus aussi du modèle post-soviétique qui était la spécialisation de la culture avec le blé, etc. Voilà. Donc vous voyez, on a des logiques qui s'affrontent. C'est pour ça que je dis qu'on est un point de bascule. Est-ce qu'on se replie sur soi, y compris sur les questions agricoles, sans sous-estimer le quotidien ? J'y reviendrai peut-être un peu plus en avant, je ne vais pas être trop long. Mais est-ce qu'on laisse tomber aussi une partie de l'Est de l'Europe dans les mains d'un Poutine ? Et est-ce qu'on accepte que la guerre progresse dans l'Union européenne, peut-être demain en Pologne, dans les pays baltes ? Et donc c'est cette complexité qui est évidemment difficile à faire passer au plus grand nombre, surtout quand on a des fins de mois qui sont difficiles, surtout quand on a des problèmes avec Lactalis qui ne paie pas le prix du lait comme il faut. Et donc on a toutes sortes de gens...
Surtout quand on a des...
Je termine juste ma phrase. On a toutes sortes de gens qui évidemment mettent le feu sur la braise, veulent effectivement accélérer les tensions pour foutre le bazar en France. Donc je pense qu'il faut accepter de trouver des solutions à très court terme sur quelques négociations de prix, sur un pacte phyto peut-être à allonger. On aura le même problème sur les transitions climatiques dans le département, sur les stations sportives, on ne peut pas demander en deux ans des transitions sur un modèle qui fonctionne depuis 40. Donc il faut un peu plus de temps et puis réapprendre à travailler sur le temps long et avoir une stratégie puissante de l'Europe, parce que l'Europe est puissante si elle est ensemble. La France est forte si elle parle qu'à elle-même, mais elle sera un nain politique et un nain économique si elle reste repliée sur elle-même.
C'est tout l'enjeu. Non, ce que je veux dire, ce que vient de dire Jean-Michel, je tiens à quand même le dire parce que ça me paraît très important au niveau de la discussion, c'est tout l'enjeu des élections du mois de juin. Hein. Sur les élections européennes, ce que tu viens de dire, c'est cette bascule qu'il y a entre... Moi, je suis très inquiet, pour rien vous cacher, parce qu'on voit les sondages, ce qu'ils donnent.
Mais toi, t'es toujours inquiet. Chaque fois que tu viens dans cette émission, tu dis, mais moi, je suis très inquiet.
Je ne suis pas le seul à être inquiet, malheureusement. Je voudrais être le seul et me tromper, mais les sondages sont têtus en la matière. Et il y a des partis politiques... que je nommerai pas, mais tout le monde aura compris, qui ont des solutions qui paraissent évidentes, toutes simples et tout, simplistes, et qui vont faire un super résultat aux élections européennes. Donc, je le dis, ces élections européennes n'auront jamais eu autant d'importance, parce qu'il y a toute l'agriculture, mais il y a aussi la défense militaire, qui arrive avec ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Ukraine, à Moscou et ailleurs. Et donc, voilà. Mais je ne veux pas noyer le poisson. Hein. Par contre, sur les agriculteurs, moi, j'ai quand même une remarque pour éteindre. Je suis à l'extérieur, donc je n'ai pas réponse à tout. Moi, j'observe. Mais il y a agriculteurs et agriculteurs aussi. Hein. Ça n'a pas été dit depuis le début. Oui. Je tiens à le dire.
On est d'accord. On a agriculteurs et agriculteurs.
Les agriculteurs de la montagne, là, des Hautes-Alpes, ça n'a rien à voir avec ceux des plaines de la Bosse et de l'Abri, quoi.
D'ailleurs, il y en a certains qui apprécient moyennement celui qui est à la tête.
De la FNSEA, pardon, Rousseau.
Oui, on peut en parler, mais après, il y a aussi autre chose.
Je voudrais donner la parole à Michel qui est là. Tu es au courant que Michel est avec nous?
Oui.
Il est agriculteur, lui.
Je suis fils d'agriculteur.
Et ben voilà.
Et j'en suis fier.
Donc au moins que Michel puisse dire un mot.
Pendant des années, j'ai travaillé là-dedans, effectivement. Et c'est vrai, quand on est là-dedans, on est attaché à la terre.
Et une grande famille de maraîchers.
Tu as dit que tu étais dentiste.
D'agriculture. Oui, c'est ça.
Parce que tu travaillais là-dedans, tu as dit. Ah, là-dedans. Là-dedans. Ah oui, pardon, d'accord, ok, excuse-moi. Non, je n'ai pas compris.
Excuse-moi, je me suis mal exprimé.
Bah, tu sais,
c'est pas grave.
Il est incroyable.
Bon, c'est vrai, ce que je voulais dire, c'est. Mais vous venez de l'évoquer, c'est-à-dire qu'il faut regarder d'une manière très, très simple les grands céréaliers et les petites exploitations. Et on a besoin, effectivement, des petites exploitations, notamment sur le territoire et notamment dans les Hautes-Alpes. Sauf qu'effectivement, si on regarde la PAC, elle est captée pour 80% par les grosses. Voilà, tout à fait. Deuxièmement, on a de moins en moins, effectivement, de gens. Oui, enfin, je traduis ce que j'ai pu lire.
D'accord, mais pourquoi t'es pas d'accord? Attends,
Bruno fait des gestes.
Bruno, tu fais des gestes.
Ouais, je t'en prie.
Je dois laisser passer.
Oui, mais peux dire non parce que.
Si
voilà.
Je me trompe, vas-y.
Tu fais une synthèse.
Elle est captée par les gros séries, par une minorité de gens qui ont des grosses surfaces. Mais aujourd'hui, elle est quand même très favorable aux zones de montagne. Moi, il ne faut pas le cacher.
S'il y a une mutation,
aujourd'hui, elle a été la dernière réforme a été très favorable à l'agriculture de montagne et à l'élevage de montagne et au pastoralisme. Aujourd'hui, il y a des situations dans les Hautes-Alpes et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'est quand même pas si mal loti. Je pense que la filière arboricole souffre énormément. La filière viticulture souffre aussi, peut-être pas trop dans les Hautes-Alpes, parce qu'elle est quand même... Donc, il y a aussi quand même un petit peu des... Il y a des courants aussi. Vous parliez du président de la FNSEA. Oui, gros céréalier. Président d'Avril, du groupe Avril, c'est ex-Sophie Protéol. Sophie Protéol, ça a été créé en 81 par François Mitterrand et Michel Rocard, premier ministre. Uniquement pour créer des fonds de pension, pour attirer des fonds de pension, pour maintenir pour intervenir sur les oléagineux, pour maintenir cette filière-là, pour investir dans des entreprises de transformation industrielle type Le Sueur ou autre, pour assurer des débouchés. Et c'est aussi eux qui avaient... Et cette technique a bien marché, ça a été repris et cautionné par tous les gouvernements qui ont suivi. Mais c'est aussi eux qui ont eu les pouvoirs d'investir dans les usines d'éthanol et de la betterave. C'est aussi eux qui ont semé ce potentiel-là. Donc bon, ok, moi c'est pas trop ma tasse de thé, et je le dis clairement au niveau de la FNSEA, et ça fait partie aussi du bruit qu'il y a un petit peu en ce moment, il y a toujours deux courants. Il y a l'élevage et les grandes cultures. On va être dans une renégociation de la PAC. Clairement, les grandes cultures avec les problèmes qu'ils ont sur les néocotinoïdes notamment, et sur les crises qu'il y a eu sur les céréales, ben ils revolent un petit peu d'équilibre par rapport aux élevages de montagne ou autres. Jusqu'à maintenant, c'était Christiane Lambert, première femme qui était à la tête du syndicat.
Qui est maintenant à la tête du syndicat européen.
Du copage.
Une femme remarquable.
Voilà, non. Et qui était éleveur de porcs aussi. Et originaire de Corrèze ou peut-être du centre de la France, mais bon. D'une zone à faible densité. Mais je veux dire, il y a deux courants dans les FNSEA. Et du coup, il y a aussi des enjeux internes. Tu vois ce que je veux dire?
Bon.
Okay. Alors.
Alors donc, Michel, voilà. Continue. Michel, tu peux continuer, s'il te plaît. Parce que
après,
là,
bon, sur un autre aspect plutôt pratico-pratique, effectivement, il y a une mutation de la pratique de l'agriculture dans tous les domaines, en termes écologistes et écologie, et d'être de manière un peu plus vertueux dans les produits qu'on utilise. Il faut, alors ça a été dit, il faut accompagner les gens à la fois par la technique et puis par la finance. Donc, toute cette conjoncture, effectivement, ça, tu l'as dit, Jean-Michel, c'est sur le temps long. On ne peut pas faire les choses d'une manière radicale, parce que ce en quoi ça ne peut pas marcher. On pourrait, dans ce cas-là, abandonner les choses. Ce qu'on peut regretter, effectivement, de la part, entre guillemets, des écolos, d'une manière générale, c'est cette radicalité. Il faut qu'il y ait un accompagnement. Et l'accompagnement, il passe effectivement par les finances, et puis par la technique, par les esprits. Donc voilà, grosso modo.
Tu es un sage, Michel. Michel, tu es un sage. À chaque fois dans ces émissions.
Aujourd'hui, tu as parfois l'impression qu'on te demande un peu tout et son contraire.
Mais ça a été dit, parce qu'en France, il y a des réglementations qui sont plus contraignantes qu'en Europe. Donc, effectivement, à un moment donné, le mécanisme social tel que tu l'as décrit, Bruno, c'est vrai. Aujourd'hui, on a du mal à recruter des gens et on a perdu la culture du travail en France. C'est un point de vue très personnel. On peut me décrier, c'est possible. Et on va faire appel aujourd'hui, il y a des lois qui sont en gestation, aux migrants pour venir faire le travail manuel. Pour moi, c'est une désolation. On a un public qui serait tout à fait capable de le faire dans notre pays, c'est un état d'esprit. Malheureusement, on est parti dans d'autres dérives, et résultat des cours, on perd un savoir-faire, on perd la culture du travail, on perd une indépendance. Ça, moi, ça me gêne, ça me blesse. Il y a des gens qui veulent faire croire aux nouvelles générations qu'on peut vivre une vie facile et ludique. Mais non, c'est faux. Il faut se retrousser les manches. Il faut, à un moment donné, avoir le courage de s'atteler au travail, aux catégories sociales qui aujourd'hui, sur lesquelles on a vomi pendant des décennies, sur des métiers manuels, entre guillemets. C'est dommage.
Oui, parce à condition de pouvoir vivre de son travail.
Oui,
tu vois ce que je veux dire, c'est quand même. Je pense que cette question-là, pour les agriculteurs sur le terrain, là, je vous parle des remontées de la base, hein, à ce niveau-là, c'est un vrai truc. Quand ils discutent avec, tu sens que, oui, ils ont l'impression que leur travail n'est pas reconnu, n'est pas valorisé, n'est pas payé au prix de l'effort que ça leur demande.
Complètement.
Et à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui ont envie de.
Et les salariés agricoles sont sans aucun doute la dernière charrue qui est vraiment dans une posture très compliquée. Alors, c'est vrai, quand on regarde sur l'inflation et tout, pour le coup, Jean-Michel, effectivement, il y a une augmentation. Je ne sais pas comment les agriculteurs peuvent se permettre à un moment donné de dire, tiens, on va mettre 15% de plus parce qu'on a un budget. Il n'y a pas de budget. Il faut créer la richesse. C'est ça, la véritable richesse, c'est celle-là. Mais celle-là, aujourd'hui, la France, alors il y a d'autres secteurs d'activité qui sont, heureusement, qui
sont. Il faut être passionné
riches.
Aujourd'hui pour être éleveur ou pour être. Même pour être viticulteur, je veux dire, il faut s'accrocher.
C'est un message intellectuel et moral à faire passer, notamment aux nouvelles générations. Si nous, on n'est pas convaincus de ce qu'on fait, comment on peut se permettre d'engager nos enfants derrière? Il faut qu'on soit, entre guillemets, passionné. Mais il faut avoir. C'est vrai, Laetitia, il faut avoir les moyens, la finance. Alors, comment faire?
Tu sais comment faire? Il faut que ça vienne du consommateur. C'est le consommateur qui dictera tout.
Jean-Michel avait participé à une émission dont le titre est très bien trouvé, qui s'appelle « Manger, c'est voter ».
Exactement.
Et c'est vrai qu'on vote tous en tant que consommateur trois fois par jour. Et c'est vrai que le consommateur, il est aussi dans ce paradoxe de « je veux bien manger, je veux manger bio », mais en même temps, je veux faire attention à mon porte-monnaie parce que je veux m'acheter, comme on disait, le dernier iPhone.
J'ai une formule très imagée. Actuellement, on va de la fourche à la fourchette. Et pour reprendre ce que vient de dire Bruno, il faut instaurer, sans inverse, de la fourchette à la fourche.
Oui, aussi. Et juste pour rebondir, après on laisse la parole à Jean-Michel qui nous fait des signes désespérés.
surtout pas désespéré avec
non,
vous.
Non mais regardez
allez,
le succès.
Allez Jean-Mimi, à toi.
Regardez le succès de C'est qui le patron, qui est un, moi je trouve qu'il y a un concept génial, qui est l'idée de dire on essaie de rémunérer le producteur, en tout cas en termes de marketing, c'est une très bonne idée, de dire on essaie de rémunérer le producteur à hauteur de ce, que, de ce qu'on estime être c'est, son travail.
Juste, je passe la, la parole à...
Ah, Jean-Michel, merci. Merci
pour ça, il y a la loi Egalim, et elle n'est pas si mauvaise que ça, il faudrait juste l'appliquer et, ouais. Et aller plus loin.
C'est voilà, je voulais juste m'en parler de la loi Egalim.
Eh ben vas-y, voilà.
Et notamment faire en sorte que dans la chaîne de la valeur, finalement le prix payé au bout du compte par le consommateur se retrouve dans l'assiette du producteur, c'est-à-dire avoir une rémunération juste. Bon, ouais. une fois qu'on l'a dit, c'est complexe parce que il y a des logiques de concurrence, il y a des logiques de filière, mais qu'on a quand même vu des gens cachés durant cette crise, qui étaient les grands distributeurs. Oui. Parce qu'ils savaient pourquoi ils devaient être cachés. Et en même temps, ils sont confrontés, toutes et tous, nous sommes confrontés à des injonctions contradictoires. On veut payer moins cher et on veut aussi bien qu'avant. Donc, dans une période d'inflation, ça ne fonctionne pas. Et donc, il y a forcément un couillon dans l'histoire. Et le couillon, c'est souvent l'agriculteur. Et donc, à partir de là, comme on est sur des activités très capitalistiques, pas au sens idéologique du terme, mais au sens... investissement sur l'outil de production, sur du temps long. C'est très compliqué pour des jeunes quand ils s'installent en élevage bovin-lait, par exemple. Ils ont pour 25 ans d'amortissement à minima de leur investissement quand il faut le remettre aux normes ou le créer de toutes pièces quand on est dans une installation extra-familiale. Comment voulez-vous, quand vous n'avez pas de visibilité sur le marché et sur votre prix de rémunération, vous investir là-dedans? C'est vrai que c'est compliqué de les soutenir. Première observation. Deuxième observation, je reviens... C'est un peu mon niveau, mon devoir, pardon, en tant que parlementaire, de temps en temps replacer ça aussi dans une dimension stratégique. La France reste, plus que jamais, la première puissance agricole de l'Union européenne. Comment se fait-il qu'on soit dans l'incapacité de jouer de notre influence pour avoir le commissaire chargé des questions agricoles d'origine française? Pas parce qu'il ferait mieux que M. Timmermans, mais quand M. Timmermans a été commissaire chargé des questions agricoles, il a joué essentiellement une dimension ultralibérale parce qu'il était plutôt défenseur des intérêts de grosses fermes, de fermes qui ont déjà muté vers l'industrie, c'est quasiment de l'agro-industrie, alors que nous on est sur un système lié à nos paysages, lié à notre histoire, à nos terroirs, on en a d'ailleurs fait une spécificité de destination, de production, etc. Donc on a un décalage, je trouve inacceptable qu'on n'arrive pas à imposer si effectivement on a demain une nouvelle commission, ce qui va être le cas puisque Mme van der Leyen a annoncé qu'elle souhaitait, si elle était soutenue par une majorité au Parlement européen, qui est encore une autre question, être candidate. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive aussi à imposer sur des enjeux qui sont stratégiques pour nous dans la relation qu'on a avec nos agriculteurs dans nos territoires, mais la relation que nos agriculteurs ont avec des concurrents qui sont des concurrents visiblement pas très honnêtes dans les pratiques. Concurrents, je ne parle pas que des agriculteurs, je parle des États qui les soutiennent dans leurs politiques respectives. Je crois que ça serait envoyer un signe fort. Mais bien souvent, nos négociateurs pensent qu'il est préférable d'être au développement numérique que d'être sur notre force qui est l'agriculture quand il s'agit d'avoir une répartition des responsabilités, alors que c'est une des principales filières de valorisation de notre pays à l'export. Donc, quelque chose que je ne comprends pas. Et ça, c'est vraiment une stratégie au long cours, toujours pareil. Hein. Les Chinois et les Russes, ils ont toujours une stratégie à 20 ans ou 30 ans. Parce que la force des dictatures, c'est qu'elles s'incommodent peu des résultats des élections, puisqu'il n'y en a pas où elles sont falsifiées. Nous, tous les 5 ans, on le voit bien aux États-Unis, on le voit bien en Europe occidentale, on le voit bien chez nous, il y a des élections. Donc, c'est très compliqué pour des dirigeants politiques d'avoir ce temps long. Donc, ils ont forcément... une avance sur nous. Donc il faut qu'on utilise les armes de la démocratie, c'est-à-dire l'influence, et puis il faut qu'on utilise les armes de la démocratie, c'est le dialogue et la liberté. Mmh. Et donc il faut expliquer quand même que le modèle vertueux, c'est l'état de droit, c'est la liberté de manifester, et c'est la liberté de se plaindre, et parfois de dire qu'on est heureux quand ça fonctionne.
Il y a Thierry qui demande la parole.
Je voudrais quand même qu'on change de sujet, parce qu'on peut faire la nuit. Hein.
Ouais, ouais, là,
non, mais attends, Bruno, on peut faire la nuit.
Mais j'avais quelque chose d'intéressant.
Il fait la nuit. Ah ben. Il fait nuit d'ailleurs.
Ouais, alors... Tu sais qu'on est passionné avec Bruno par ce sujet-là. Donc...
Juste simplement pour dire qu'on a besoin de vision dans le temps, et je veux simplement rappeler qu'aujourd'hui, on travaille toujours. sur la loi d'orientation agricole de 1960, qui était une loi qui a été mise en place par Edgar Pisani. Il y a beaucoup de choses qui datent de cette loi. Elle a été amendée plusieurs fois, révisée, etc. Et que ce gouvernement-là nous avait promis une loi.
Cette année, normalement.
Oui. Mais il faudrait que ce soit une loi qui permette de planifier les choses. Et pas une réponse aux petites... Il faut avoir du courage, quoi. Hein, et puis, tu parlais de l'agrandissement des fermes et tout. Aujourd'hui...
Parce que tu es reparti, là.
Il faut. Et la prochaine fois, tu traînes caméra.
Je fais régulateur aussi.
Ah ouais, non, mais.
Là, Bruno, c'est est terrible.
Mais t'es ingérable, quoi.
Laetitia et Bruno, ils sont
terribles. Moi, je m'étais dit, on a Jean-Michel ce soir. Ça va être compliqué.
Vous avez vu, je fais des progrès. Hein.
En fait, ouais. Toi, tu fais des progrès parce qu'il y en a un qui se laisse aller.
Thierry, je fais une proposition, c'est qu'on fasse une réunion publique que tu animerais avec deux animateurs, là. Voilà. Bruno et Laetitia. Je ne me suis pas trompé.